Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Félix. Aujourd'hui, on va vous parler de cette jolie petite ville ensoleillée qu'est Verdun.
Tout à fait, même si on n'est pas là pour parler de la météo. Tout le monde connaît la célèbre bataille de Verdun, du 21 février à la mi-décembre 1916, qui a marqué la Première Guerre mondiale.
Oh ça oui, une guerre sanglante de mouvements, mais aussi de positions.
Eh bien aujourd'hui, on va s'interroger sur l'histoire et la mémoire de ce lieu chargé de symboles. Avec Yona, descendante de Poilu, Solène, notre guide touristique, et enfin Kevin, qui est notre historien.
Mais attention, il faut savoir faire la différence entre l'objectif, qui représente plutôt l'histoire, et le subjectif, qui correspond plutôt à la mémoire.
Donc, Monsieur Kevin, le fustec, selon vous, y a-t-il une échelle hiérarchique entre l'histoire et la mémoire?
Selon moi, les faits historiques sont bien plus importants que ce que l'humanité en retient. Beaucoup de grands événements ont été oubliés par l'humanité. Je pense notamment à la bataille de Champagne, qui fut un grand échec pour l'armée française. D'ailleurs, mon cher collègue René le dit très bien ici.
Alors, il y a pas mal de facettes qui ont été oubliées sur cette Première Guerre mondiale. Déjà, la bataille de Champagne en 1915, qui est un des premiers tournants de la Grande Guerre, puisque c'est le véritable début de la guerre des tranchées, c'est le moment où ça commence à se stabiliser. Et l'armée française va un peu se prendre les pieds dans le tapis, on va dire, puisqu'on va avoir beaucoup de décisions qui n'ont pas vraiment de sens. On va avoir énormément de pertes sur cette période. Les Allemands vont être retranchés sur certaines positions et on va un peu se casser les dents là-dessus. Et généralement, dans les programmes scolaires ou même globalement dans pas mal de reportages, on passe un peu sous silence cette période, puisque c'est une période de transition entre 1914, le début, la bataille de la Marne, qui est considérée comme une grande victoire française, même s'il y a une petite nuance à apporter déjà là-dessus, et forcément la bataille de Verdun et la bataille de la Somme, qui sont les grands moments de la Première Guerre mondiale. Mais entre les deux, il y a cette bataille de Champagne qui est déjà un des premiers tournants, autant pour l'armée française que pour l'armée allemande, parce que l'armée allemande va y laisser quelques plumes quand même. Et puis après, en 1917, on a justement cette poursuite de la bataille de Champagne. On a le chemin des dames, avec toutes les bavures qui vont autour, les mutineries, les soldats qui vont être jugés. On a aussi un événement qui va être un peu passé sous silence, sous silence qu'on oublie généralement, c'est la seconde bataille de Verdun qui va intervenir en début 1917. Tout le monde connaît les 300 jours de Verdun entre février et décembre 16, mais on a en début 17 une seconde bataille de Verdun. Les Allemands vont essayer de remettre un coup de grâce, notamment sur les collines de la côte 304 et du Morhomme. Sauf que, étant donné qu'ils ont dû séparer une bonne partie de leurs troupes pour les emmener de la Somme et sur d'autres secteurs, ça n'aura pas le même impact et les Français arriveront à vite retourner la situation. Mais c'est ce qu'on appelle la seconde bataille de Verdun. On va avoir beaucoup de moments où l'armée française va se casser les dents sur des secteurs, sur des collines, et voyant qu'il n'y a pas de résultats, l'état-major voudra des résultats. Et les officiers vont essayer de trouver des responsables en fusillant par exemple des soldats qui soi-disant n'ont pas exécuté des ordres ou ont fait une bêtise qui est la cause lointaine d'une défaite. Et on a par exemple l'histoire des fusillés de soins en Champagne qui interviendra. Ce sont des soldats en fait qui vont être fusillés par exemple des caporaux soi-disant parce qu'ils n'ont pas exécuté l'ordre. En réalité, c'est juste qu'ils n'avaient pas compris cet ordre, puisque les soldats ne venaient pas du tout de la même région et littéralement ne parlaient même pas la même langue, puisque à l'époque, des Corses ne parlaient pas la même langue que des Bretons ou des Parisiens. Et suite à cette incompréhension, on a fait porter le chapeau à des caporaux qui, soi-disant, n'ont pas voulu exécuter ces ordres. On a, dans cette même histoire liée à ça, un officier du nom de Réveillac, qui va carrément ordonner à l'artillerie française de tirer sur leur propre ligne pour inciter les soldats à sortir de leur tranchée. Donc en gros c'était un abattoir, c'était soit on mourait dans notre tranchée par l'artillerie française, si on se faisait aligner par une mitrailleuse en face de l'armée allemande. Il va y avoir tout un tas de bavures de ce style-là, puisque l'état-major français est en grande difficulté. On a, pareil, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une période de transition aussi au niveau de l'uniforme, de l'armement, etc. Donc, on a encore quelques interrogations, et tout ça fait que l'année 1915 est un premier tournant pour le moral des troupes, pour la façon de voir la guerre, etc.
Donc au final, il y a eu beaucoup de victimes pour un simple entêtement des généraux.
Justement, c'est parce qu'il y a eu autant de morts que le devoir de mémoire est aussi important. On se doit de se souvenir pour que cela n'arrive plus jamais et pour rendre hommage aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour la France. D'autant plus de nos jours avec la guerre en Ukraine, il faut se rappeler qu'après la Première Guerre mondiale, la seule pensée que tout le monde avait en tête, c'était « plus jamais ça ».
Oui, mais pour moi, l'histoire et la mémoire ne doivent pas être opposées. Puisque l'histoire est avant tout construite sur les témoignages qui, eux, sont de l'ordre de la mémoire et ont donc une part d'affectif. Même si l'histoire se veut objective, elle ne pourra jamais l'être totalement. Par exemple, pour la bataille de Verdun, il y a eu des reconstitutions de tranchées, comme celle de Chatancourt, qui est basée sur des photos, des plans militaires et également des récits.
C'est justement notre travail, à nous autres historiens. Nous devons croiser chaque source. Par exemple, pour la bataille de Champagne, je reprends celui de tout à l'heure, chaque témoignage est biaisé. Si on prend par exemple les documents de l'État français, la défaite va être fortement amenuisée. On ne va pas vouloir reconnaître cette erreur. Si l'on prend des témoignages des soldats ou des civils qui ont vécu la bataille, eh bien, leur témoignage va être très fortement impacté par leurs sentiments. C'est pour cela que c'est très important de croiser chaque source, afin de retranscrire des faits au plus proche de la réalité.
Même si tous les témoignages sont différents, il y a une mémoire collective. À Verdun, il y a maintenant un fort tourisme mémoriel, car la ville restera touchée à jamais par ce qui s'est passé. C'est un symbole de paix maintenant, et pas forcément de victoire, car au vu des pertes humaines, on ne peut pas qualifier ça de victoire. De nombreux symboles de paix sont présents sur ce lieu. Par exemple, à l'ossuaire de Douaumont, le bâtiment est en forme d'épée orientée vers le sol. Dans cet ossuaire, les restes des Français et des Allemands sont ensemble, car l'initiateur de ce lieu considère que tous les hommes sont égaux devant la mort. Ce tourisme mémoriel a ainsi permis la réconciliation et maintenant l'amitié entre la France et l'Allemagne.
Je suis bien d'accord avec vous. Ces lieux qui nous permettent de nous souvenir sont d'une importance capitale. Par exemple, Verdun et ses environs sont peuplés de cimetières militaires. Et ce paysage en lui-même représente l'histoire, il a les stigmates de la guerre avec tous ses trous d'obus. Et même de nos jours, il reste énormément d'obus sur ce lieu. Les forêts qui bordent les routes ont été plantées en 1920 sur les champs de bataille, trop abîmées par l'artillerie incessante de ces longs mois, pour pouvoir recultiver et reconstruire.
Merci à tous. On peut donc conclure que la mémoire est un moyen de conserver l'histoire et d'en tirer une leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur.
D'ailleurs, la devise de Verdun pendant cette guerre était « Ils ne passeront pas », qui s'est ensuite transformée à la fin de la guerre en « Plus jamais ça ». De plus, on peut ajouter que on peut faire une comparaison avec aujourd'hui, avec le fait que qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette guerre et de cette devise. Et on peut faire un parallèle avec la guerre en Ukraine actuellement et ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale à Verdun.